Bonjour à tout le monde. Quand je vois l'audience ici rassemblée, je vois beaucoup plus de filles que de garçons. Et je comprends, malheureusement, que quand nous avons des candidats pour des postes dans notre entreprise, nous avons beaucoup de mal à avoir des garçons. Alors, ce n'est pas que nous n'aimons pas les femmes ni les filles, au contraire, mais c'est bien entendu, on aime avoir une bonne parité entre les garçons et les filles pour avoir un excellent équilibre dans notre société. Mais aujourd'hui, donc, je vous remercie de pouvoir intervenir. Si je parlais trop vite, vous levez la main, parce que de temps en temps, je parle et je commence à parler très, très vite. Mais je vais essayer de m'appliquer pour parler lentement, puisque aujourd'hui, je fais une présentation en français, ce qui est plus simple pour moi. Mais je n'ai pas de problème non plus en allemand, mais aujourd'hui, je m'appliquerai en français. Ces rencontres sont aussi à l'initiative d'un groupe ici qui s'appelle les conseillers du commerce extérieur, les Außenhandelsräte, dont je suis le président à la suite de Dominique Bayen, que vous aviez rencontré ici puisqu'il avait fait la présentation sur l'énergie. Donc j'ai pris sa suite au mois de juin et ces conseillers du commerce extérieur ont trois missions pour la France qui sont premièrement de conseiller l'ambassade et services économiques sur la situation économique du pays dans lequel ils sont présents. La deuxième mission, c'est une mission de soutien pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises en France qui souhaitent s'implanter dans les pays dans lesquels nous sommes, donc pour nous en Autriche. Et la troisième mission, c'est une mission de soutien à un programme des volontaires internationaux en entreprise. Ce sont des gens, des jeunes, donc qui ont fini leurs études et qui postulent dans des entreprises françaises et qui sont subventionnés par l'État français pour travailler dans les entreprises françaises à l'étranger. Donc vous, si quand vous aurez fini vos études, vous avez aussi, parce que vous parlez français, et si vous avez envie de travailler dans une société française, la possibilité de participer à ce programme, voilà, dans le monde entier. Voilà, donc ça c'est pour la partie donc conseiller du commerce extérieur. Et maintenant, je vais vous parler de Bongrain. Donc, je suis directeur général de Bongrain Autriche depuis 2 ans. Juste un mot sur ce que j'ai fait avant. Ça fait 18 ans que je travaille chez Bongrain, donc une grande fidélité dans une entreprise qui a beaucoup de gens qui sont comme moi fidèles, parce que c'est une entreprise très agréable dans laquelle on peut travailler et qui a beaucoup de succès. Donc, on y reste volontiers. Alors, j'ai commencé en contrôleur de gestion. Donc j'ai fait un peu de finance au début, après en France. Après je suis parti, après 2 ans, en Allemagne, où j'ai fait de la vente. J'ai visité les supermarchés en Allemagne. Et puis j'ai commencé au marketing, où j'ai fait 8 ans de marketing, jusqu'à devenir donc chef de produit, chef de marque et tout cela. Et j'ai fini, après 8 ans, marketing manager. Et on m'a proposé ensuite de partir donc au commercial et j'ai monté différentes divisions commerciales pour le groupe Bongrain en Allemagne et jusqu'en 2008 où j'étais donc directeur commercial pour toutes les activités du groupe Bongrain en Allemagne. Et c'est là qu'on m'a proposé ensuite de devenir directeur général ici en Autriche. Et j'espère que ça restera le plus longtemps possible et qu'on ne m'en verra pas ailleurs parce que c'est très agréable de vivre en Autriche. Bon, finalement, je suis marchand de fromage. Et alors, j'ai quelqu'un qui m'assiste aujourd'hui. C'est Elisabeth Schoffmann, qui est une ancienne élève de la VU de Vienne, qui est autrichienne, mais qui parle aussi parfaitement français, et qui est depuis bientôt 2 ans chez nous. Oui, 1 an et demi, 2 ans. Et qui est brand manager pour certaines de nos marques, qui se développent d'ailleurs très bien. Voilà. Donc, on est... Elle est chez elle ici. On va commencer la présentation. Donc, je propose comme sujet le rôle des marques dans la grande distribution. Bien sûr, je m'attarderai plus tard sur la définition des marques, mais aussi la grande distribution, ce qu'on appelle en allemand le Lebensmittel Einzelhandel, c'est-à-dire tous les magasins dans lesquels vous achetez les produits pour vous nourrir tous les jours. Alors, en ce moment, en plus, on vit un moment très intéressant, puisque les marques qui se sont développées 20 ans, 30 ans, aujourd'hui sont obligées de devenir très, très, très agiles et de bouger beaucoup et de s'adapter. Et par rapport à ça, donc, on verra toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Donc, je vous montre un petit peu. Ensuite, on va commencer par la présentation du groupe Bongrain. Il y aura un film qui dure 5 minutes sur l'historique, sur les valeurs du groupe. Et vous verrez que c'est intéressant. Ensuite, nous passerons véritablement sur les grandes marques. Et là, je vous poserai un peu de questions. La valeur ajoutée des marques. L'exemple ensuite d'une marque, la première marque de fromage en Allemagne, la marque Géramont, qui nous appartient, et puis les perspectives. Voilà. Donc, rapidement, sur le groupe Bongrain. C'est un groupe dont l'entreprise familiale a été créée en 1919, mais véritablement, le groupe a commencé en 1956, sous l'initiative de Jean-Noël Bongrain, qui a créé une marque, le Caprice des Dieux, donc qui n'est pas très bien connu ici, Caprice des Dieux, Laune der Götter, un grand mot, Caprice des Dieux. Tous les gens du marketing, les gourous du marketing aujourd'hui diraient, mais c'est un mot trop long, jamais les consommateurs vont comprendre ça, jamais ils vont retenir ça. En plus, une couleur bleue comme ça, eine grelle Farbe, personne va jamais acheter un fromage avec une telle couleur. Et puis bon, une forme un peu bizarre. Et puis, c'est devenu la première marque de fromage en France et qui, depuis 50 ans, est toujours plus appréciée des consommateurs en France. Non seulement en France, en Suisse, en Belgique et dans beaucoup d'autres pays. Et un petit peu pour animer, je vais vous montrer le dernier spot publicitaire sur cette marque, donc sur Caprice des Dieux. Et oui, on n'arrête pas le plaisir, mais en fait, on n'arrête pas le plaisir, mais tout ça, pour ne pas arrêter le plaisir, eh bien, nous avons une mission dans le groupe, c'est entreprendre pour bien nourrir l'homme. Alors, ça veut dire quoi, entreprendre pour bien nourrir l'homme? Ça veut dire agir, être responsable, s'engager, créer pour satisfaire nos clients et nos consommateurs, véritablement avec les meilleurs produits, puisque c'est ce que nous cherchons à avoir. Nous ne cherchons pas à faire simplement du fromage, mais derrière, à créer les meilleurs produits, les plus innovants, et dans la logique de la responsabilité sociale, économique, environnementale. Et ça, c'est entreprendre pour bien nourrir l'homme. C'est vraiment la mission que s'est donnée le groupe Bongrain. Et maintenant, je vais vous montrer un film qui présente à la fois l'historique du groupe, le développement depuis 1956. Nous ne faisons pas uniquement des fromages, nous faisons aussi des chocolats, les meilleurs chocolats du monde avec Valrhona, la maison du chocolat. Nous faisons aussi de la charcuterie. Et vous verrez aussi les principes d'action que nous avons, parce qu'une entreprise, c'est d'abord l'association d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble pour créer des produits. Et c'est le développement du groupe, ce groupe qui a été porté ces dernières années par à peu près 19 000 collaborateurs. Voilà, donc je vous présente le film.
Pour raconter l'histoire du groupe, il pourrait suffire de faire apparaître à l'écran 50 ans de lieu ménage. 50 ans de visage et de son. 50 ans d'enthousiasme et de combat. Une simple succession chronologique montrerait comment, d'une petite équipe familiale fondée en fédération PME avec un ancrage solide dans toute la France, au cœur des principaux bassins laitiers. Une pénétration simultanée des pays européens à continent, une présence déjà bien effective en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Comment ensuite, de 1980 à 1992, soir de ses bases, on est passé à la constitution progressive d'un groupe agroalimentaire diversifié, avec un socle fromager consolidé en France et à l'international, et de nouveaux domaines investis avec le chocolat et la gastronomie, la charcuterie et les produits de la mer. Comment, à partir de 1992, avec l'alliance majeure conclue avec l'Union laitière normande devenue la compagnie laitière européenne, le groupe acquiert une nouvelle dimension. Avec le beurre, la crème, les protéines et les composants laitiers, il élargit considérablement son domaine d'expertise. Comment, prenant une avance incontestée, il investit méthodiquement chacun des marchés de l'Europe centrale et orientale et se renforce ou s'engage sur les grands marchés de la mondialisation. L'Amérique du Sud, les États-Unis, l'Inde, la Chine et le pourtour de la Méditerranée. Comment enfin, entrant dans le 21e siècle, il développe, aux côtés de ses modes traditionnels de croissance, une politique de multiplication d'alliances et de partenariats dans les métiers traditionnels comme dans les métiers de haute technicité. Aux États-Unis, au Japon, en Europe, en Amérique du Sud. Mais si beau que soit le portefeuille de marques ainsi constitué, si étendu que soient les territoires conquis, si appréciés que soient les hommes et les métiers exercés, ce panorama serait artificiel et incomplet s'il n'allait au cœur de l'aventure pour en extraire et oublier les facteurs clés de succès qui, dès l'origine du groupe, ont animé son action et expliqué ses succès. La volonté de faire autrement, l'esprit d'équipe, le sens de l'adaptation. L'archétype du fait autrement, c'est le fameux caprice des dieux. À l'époque, tout en lui est inédit, iconoclaste et révolutionnaire. Le nom, la forme, la texture, la composition, le mode de fabrication, la communication publicitaire. Et si l'on examine bien l'histoire du groupe, tous les grands succès auront été issus de la même démarche. Pour les marchés, la démarche du fait autrement fut identique. Un symbole, les premières exportations dans une Europe qui n'en avait que le nom. Et alors que la France de l'après-guerre était loin d'être saturée. Un autre exemple, les premiers pas avant tous les concurrents pour vendre aux États-Unis dès 1971, pour produire en Espagne en 1978 et dès 1975 au Brésil. Le Brésil, imaginez, une fromagerie à 10 000 km du Lido, au sud de l'Amazonie. Alors qu'en France, dans les années 60 ou 70, un exportateur passait déjà pour un audacieux précurseur. Plus récemment, et pour ne citer que cet exemple, c'est la même audace et le même esprit pionnier qui ont permis au groupe d'être le premier à littéralement investir les marchés d'Europe centrale et orientale. Dès l'origine, c'est l'esprit d'équipe qui est aux commandes. Les prises de décision s'exercent dans le cadre d'une communauté de valeurs et de principes, ce qui favorise le consensus et permet la réactivité. Et c'est à l'œil nu que sur d'anciens clichés, on peut percevoir la cohésion et la solidarité qui anime l'équipe lors des toutes premières rencontres à 12 participants en 1967. Une entreprise n'est pas un corps figé. C'est un organisme vivant qui s'adapte et évolue en permanence en fonction des objectifs, des potentialités, des opportunités et bien entendu de l'évolution des marchés. Tout au long de son histoire, le groupe Sopara de Bongrain a su évoluer et s'adapter en permanence au changement en sachant faire évoluer son périmètre. Et c'est à l'honneur du groupe que d'avoir su céder des entreprises à des groupes capables de poursuivre leur développement. Aujourd'hui, le groupe Sopara Bongrain est le fruit de toutes ces années d'une extraordinaire richesse. Il est actif sur tous les marchés d'avenir. Fort de la dynamique propre insufflée voilà plus de 50 ans, il continue à développer dans chacune de ses activités une stratégie de spécialité à partir de savoir-faire hautement spécifique. Il continue à puiser son énergie et son ambition dans la valeur et l'engagement des hommes et des femmes qui le constituent et auxquels ce film est dédié.
Alors, vous avez vu, il y a du chocolat, il y a du fromage, de la charcuterie, mais le principal de notre business, c'est quand même le fromage. Et des journalistes ont dit il y a peu de temps que Bongrain avait le plus beau plateau de fromage du monde, et je pense que ce n'est pas mentir. Nous sommes leader mondial des spécialités fromagères et leader mondial des fromages à pâte molle, ce qu'on appelle Weichkäse. Alors, vous voyez quelques-unes de nos marques ici que vous reconnaîtrez. J'espère qu'il y en a beaucoup qui les achètent, qui achètent ces marques-là ici. Ah oui, ouais, c'est pas mal. Ouais. Très bien. Bon, alors il y en a pas mal à convaincre encore. Donc j'espère que dès demain, ça changera. Leader, et puis ici en Autriche, nous sommes présents depuis 1971. Et vous voyez quelques-unes de nos marques. Nous sommes numéro 1 ici des importateurs fromagers en Autriche et numéro 3 avec nos collègues autrichiens. Voilà. Et si on regarde un petit peu notre assortiment, quand on regarde tous les produits, vous voyez ici un petit peu les produits mis en scène que vous aurez par la suite le plaisir de déguster. Ils sont en train de se réchauffer là. Alors, vous n'allez pas remarquer, mais ça va commencer à sentir bon. Après toutes ces belles images, nous allons passer au cœur du sujet, donc les grandes marques. Alors, commençons par les définitions. Alors, la définition des termes, donc j'ai pris la définition d'un terme qu'on trouve dans le Kotler et Dubois, puisque une marque est donc un nom, un terme, un signe, un symbole, un dessin ou toute combinaison de ces éléments permettant à identifier les biens ou les services d'un vendeur ou d'un groupe de vendeurs, à les différencier et à différencier des concurrents. Donc là, on voit bien, c'est très théorique, mais c'est véritablement le cœur de la marque. Et puis ensuite, on en parlera, il y a une deuxième chose, il y a aussi des marques, mais des marques distributeurs qui se sont mises en place. Donc, que nos clients ont commencé à faire. Et c'est une marque de distributeur est une marque développée par un distributeur qui vend des produits, qu'il signe, mais en général ne fabrique pas lui-même. C'est-à-dire qu'il appose un logo, une marque derrière. On verra tout ça. Et de temps en temps, il taquine un peu les marques fabricants, les marques fournisseurs. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ici. Quelle marque vous connaissez dans la grande distribution alimentaire? Et pour vous indiquer, alors vous pouvez me citer des marques de boissons, des marques de produits laitiers, de confiserie, du chocolat. Est-ce que quelqu'un ou quelques-uns d'entre vous souhaiteraient me donner des noms de marques? Lindt, très bien, bon chocolat, excellent. Neum, les produits laitiers, oui, on les connaît bien. De Niederösterreich. Il y a peu de marques connues ici. Vous buvez jamais des boissons, pardon? Schärdinger, oui. Alors, je vois qu'il y a pas mal de marques autrichiennes qui sont connues et suisses. Tu as des marques plus internationales? Danone. Très bien. Donc, voilà. Pardon ? Nestlé ? Oui. Alors, je vais quand même les faire ici. Voilà, ici en Autriche, les marques qui sont les plus connues. Donc, quand vous regardez ici, les marques les plus connues, Hölz, donc le pain, encore marque Latella, que vous connaissez aussi, les produits laitiers, Schärdinger, Neum, mais aussi Uncle Ben's qui est une marque internationale, Red Bull, on y reviendra, et Bresso donc qui se tartine, qui appartient à Bongrain, donc une marque. Mais les grandes marques en Autriche, on a essayé de voir aussi ce que ça donnait au niveau international. Et à votre avis, quels sont les top 5 des marques, des plus grandes marques internationales? Excellente réponse. Une autre? Alors, à votre avis? Pardon? Kraft Food, oui, mais Kraft Food, c'est une entreprise, c'est vrai, c'est une grande marque, mais on la trouve sur beaucoup de produits, mais c'est l'entreprise. Pardon? Ah oui, Microsoft, mais c'est vrai, c'est une grande marque, mais pas dans la grande distribution. On parle sur les produits alimentaires, essentiellement. Pepsi, bravo. Kellogg, c'est pas mal aussi, mais c'est pas dans le top 5. Alors, on va voir le top 5. Alors, Coca-Cola, après, l'Autriche mais envoie des Autrichiens partout pour boire de la bière, donc Budweiser. Hein. Les Tchèques, c'est ceux qui boivent le plus de bière. Pepsi, Wrigley et Red Bull. Donc, Red Bull est dans le top 5. Et vous voyez que d'abord, on commence beaucoup par boire. Hein. Et puis après, on s'intéresse au reste. Donc, l'année de la création de Coca-Cola, 1887. L'année de Red Bull, 1987. Exactement 100 ans après, Red Bull est créé après Coca-Cola. Donc, c'est devenu un succès mondial. Donc, c'est assez impressionnant de voir, en fait, la force de cette marque. Toutes les marques qu'il y a avant sont des marques qui ont plus de 100 ans. Elles ont été créées avant 1900. Alors, ces marques, bien sûr, nous, si on était uniquement les fournisseurs, on ne saurait pas tellement quoi faire avec. Mais on a la chance d'avoir des clients qui sont les grands distributeurs. Et les grands distributeurs, je me suis intéressé à 3 pays, la France, l'Allemagne et l'Autriche. Et vous voyez que dans les 3 pays qui sont assez proches l'un de l'autre, finalement, ce ne sont pas les mêmes clients. Carrefour, en France, le deuxième plus grand distributeur mondial, après Walmart, donc 24% de part de marché en France. Ensuite, Intermarché, Leclerc, Casino, Auchan, donc c'est les 5 plus grands en France. Et puis, en Allemagne, une concentration assez forte, Alma, Edeka, Rewe, Metro, et là, la différence avec la France, 2 discounters. Parce qu'en Allemagne, le discount, qui représente maintenant une très grande partie de la distribution, a un très gros poids. Et puis en Autriche, une concentration de la grande distribution très forte, Rewe. Alors Rewe, sous Rewe, vous connaissez, hein, il y a Billa, Merkur, Penny, et puis Spar, Spar, Interspar, Eurospar, et Hofer. Et ne serait-ce que ces 3-là représentent 90% de la distribution ici. Vous voyez le poids, hein, ce qu'ils représentent. Nous, quand on a 5% de part de marché, on est content. Quand on arrive en face, ils ont 30 ou 20% de part de marché. Donc, il y a une grosse différence de poids. Hein. Mais c'est quand même grâce à eux que nous sommes aussi distribués. Donc, nous sommes reconnaissants, nous leur donnons beaucoup d'argent, ils gagnent beaucoup d'argent avec nous, mais c'est intéressant. Voilà. Alors, on a fait un peu le tour des grandes marques. Maintenant, on va s'intéresser plus à la valeur ajoutée des marques. Et la valeur ajoutée dans la grande distribution. Alors, qu'est-ce qu'elles apportent, les marques? Les marques, donc, apportent aux distributeurs l'innovation. On voit, d'abord, il y a la création d'un produit. D'abord, il y a le produit, et ensuite, il y a la marque. Et quand il y a un beau produit, il a du succès, et la marque est derrière pour entretenir ce succès. Et d'un produit, on passe ensuite à une gamme, une marque ombrelle. Mais tous ces produits, donc, d'abord, ils sont motivés par une chose dans les marques, c'est l'innovation. L'innovation, la qualité supérieure, parce que les marques, c'est un capital que nous, les fournisseurs, nous avons. Donc, il est important de jouer sur cette qualité supérieure. Et puis ensuite, c'est aussi la différenciation. Se différencier par rapport à nos concurrents, par rapport à tout ce qui existe, et à chaque fois avoir comme on dit en bon français, une unique sales proposition. Et la valeur ajoutée, c'est pour la grande distribution, parce que avec nos marques, ils gagnent beaucoup d'argent et 2 à 3 fois plus que ce qu'ils gagnent avec leurs marques propres qu'ils ont créées. Et puis, vous allez le voir dans toutes les publicités que je vais vous montrer, c'est aussi l'émotion. C'est-à-dire que quand un consommateur se retrouve devant le rayon, eh bien, il faut qu'il puisse aller vers la marque. Et la marque, elle n'est pas une, c'est pas uniquement un nom, c'est derrière aussi tout un univers. Et cet univers, on le crée par la publicité. On doit faire rêver. Alors, allons un petit peu plus dans la valeur ajoutée. Donc, le premier point, c'est que les marques, elles génèrent du trafic dans les magasins, puisque les consommateurs, ils vont dans les magasins parce qu'ils savent qu'ils trouvent les marques. Et les marques, elles sont là, elles sont comme une boussole dans un segment. Si on prend le beurre, par exemple, ou si on prend les biscuits, eh bien, il y a des top of mind, donc il y a les marques qui arrivent, ou dans les boissons. On se dit, tiens, j'aimerais bien acheter telle marque aujourd'hui dans les boissons, ou j'aimerais bien acheter telle marque de beurre, ou tel yaourt, ou tel fromage. Donc, à chaque fois, on y associe une marque. Donc, il y a une orientation. La deuxième chose, c'est que leur image et leur notoriété contribuent à la construction de l'image de l'enseigne. C'est-à-dire que quand vous allez dans un magasin et que vous ne trouvez pas les marques, vous avez du mal, vous trouvez que c'est assez bas de gamme. Le seul qui est vraiment réussi, et chez lequel, le distributeur chez lequel on va, et où on sait qu'il n'y a pas de marque, c'est Hofer, exactement. Donc lui, il a réussi, par sa marque, véritablement, la marque Hofer, à créer donc des choses. Il a une qualité qui est bonne, il va se servir chez les meilleurs fournisseurs, il est aussi assez loyal, et il propose donc des produits pas très chers, sans marque. Bien que maintenant, on trouve de plus en plus de marques chez Hofer, notamment ceux qui aiment les Süßigkeiten, avec les confiseries telles Mars et toute la suite. Là, on les trouve aussi chez Hofer. Le troisième point, c'est que les marques garantissent un niveau de qualité et de plaisir. Alors, qui me citait Lindt, voilà. Donc là, je pense que dans le chocolat, alors nous sommes fabricants aussi de chocolat avec des marques qui ne sont pas très connues, qui sont surtout connues par les pâtissiers, c'est Valrhona. Hein. Valrhona, c'est une marque de couverture qu'on utilise dans la pâtisserie. Les deux plus gros clients que nous avons ici en Autriche, c'est Zahrer, l'hôtel Zahrer et Demel, parce qu'ils utilisent le chocolat, pas pour faire la Zahrer torte, mais pour faire les excellentes confiseries qu'ils font. Ils utilisent le chocolat que nous livrons. Mais Lindt, pour le chocolat qu'on achète dans les magasins, est d'excellente qualité. Ensuite, les marques contribuent à la différenciation entre les enseignes et surtout le hard discount. Par exemple, quand on va dans le hard discount, chez Lidl, par exemple, on trouve une ou deux sortes de yaourts. Mais quand on va dans un magasin en Interspa, par exemple, alors là, on trouve tous les yaourts. Alors, il y en a qui aiment ceux aux pruneaux, un aiment aux abricots, l'autre aux fraises, l'autre avec le muesli. Et donc ça, cette variété, elle permet justement, la marque est là, et elle permet aux distributeurs de pouvoir offrir cette variété. Le cinquième point, c'est que les marques apportent l'innovation. Alors l'innovation, j'ai dit, c'est extrêmement important. Parce que l'innovation, elle n'est pas uniquement en termes de recettes, pas uniquement en termes de goût, mais elle est aussi en termes de service. Une innovation service, vous voyez ici par exemple, un produit, une crème. Normalement, on a de la crème avec dans les pots comme Dr. Oetker, mais là ici, elle est refermable, elle est plus facile à verser, elle ne voit pas le jour, il n'y a pas de contact avec l'oxygène, donc elle se conserve beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps dans le frigidaire. Ou alors, ici, les tranches de folle épi que vous trouvez chez Billa, par exemple, ou Interspar, hein, n'hésitez pas, eh bien, c'est des plus fines tranches de fromage, vous les goûterez après tout à l'heure. Donc, c'est un plaisir véritablement sensuel dans la bouche, quoi. Hein. Mais vous verrez tout ça, vous allez goûter. Ensuite, le sixième point, c'est que les marques investissent beaucoup en médias et en télévision. Hein. La publicité, elle n'est pas nécessaire pour lancer un produit à potentiel, mais la publicité, elle est nécessaire pour faire d'un produit qui marche bien un succès. Un succès pour que tout le monde le voit et pour que tout le monde le sache. Et si en plus la publicité est bonne, là ça devient une véritable success story, comme dirait le professeur Stegu. Ensuite, les marques investissent en promotion et contribuent. Alors ici en Autriche, on est les rois de la promotion dans la grande distribution. Parce que vous voyez, tous les samedis, vous ne savez plus chez qui aller acheter parce qu'il y en a un qui propose 25% là, l'autre qui propose 50% là, l'autre qui propose... Donc, il y a beaucoup, beaucoup de promotions parce qu'on est obligé d'aller chercher les gens. Kellogg's, par exemple, qui a dit Kellogg's tout à l'heure, Kellogg's ne se vend plus maintenant sans un gadget à l'intérieur. Bon, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Ensuite, les 70% des achats sont des... On les propose à Spar, on les propose à Billa, on les propose donc à M-Price et tout ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un prix. Alors, selon les acheteurs, ils les achètent plus ou moins cher, mais c'est le jeu. Ils se disent, moi, je veux attirer le maximum de consommateurs, donc les grandes marques, je vais faire des promotions dessus. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, les 400 marques les plus importantes au meilleur prix en Autriche. Et alors ça, c'est pour nous difficile parce que qu'est-ce qui se passe? C'est, comme on dit en allemand, la price spirale, donc qui va vers le bas, évidemment, et qui attire nos marques vers le plus bas prix. Et ça, on ne veut pas forcément. Bien sûr, pour les consommateurs, c'est bien. Mais après, ensuite, ça, nous, on est obligés de baisser aussi nos prix et c'est aux dépens de la qualité. Et ça, finalement, le consommateur, à la fin, il ne veut pas. Parce que les marques doivent être garantes de la qualité. Je ne parle pas trop vite. Ça va? Bon. Bon, on voit Preisknaller, 1 plus 1 et tout ça. Donc, c'est un risque grandissant. Et puis, ça va jusqu'à la copie. Alors là, j'ai pris un exemple qui est sorti l'année dernière. Vous avez un produit Danone, hein, Actimel, très connu. Tout le monde connaît Actimel. Donc, on boit tous les matins et après, on se sent bien toute la journée. Bon. Et ils ont fait une pub un jour dans le Kroner Zeitung. Mais ce qu'ils ne savaient pas, eux, ils étaient à la page 15. Et ils disaient, voilà, grad von dem Witter, c'était juste il y a un an, là. Voilà, prenez du Lactimel. Et à la page 25, il y avait Spar qui lançait le concurrent. Le concurrent avec 1 euro moins cher, la même quantité. Et en disant, on a fait tout prouver par des professeurs des Ernährungswissenschaftler, comme on dit. Et donc, c'est exactement la même chose, sauf que c'est moins cher. Alors, vous comprenez que Danone, ça ne doit pas tellement leur faire plaisir, ça. Parce que une publicité comparative sur un produit qui leur rapporte à Spar aussi énormément d'argent, où Danone investit beaucoup de publicité. C'est Danone qui, au début, a créé ce marché. C'est Danone qui a investi peut-être 20 ans de recherche et développement dans ses produits et qui, ensuite, se fait copier par son client. C'est un peu difficile. Donc, aujourd'hui, c'est un risque majeur pour les marques, pour les fournisseurs, que les marques distributeurs qui sont créées. Et puis, les MDD, donc, elles cherchent de plus en plus à aller sur le terrain des marques et à véritablement préempter ce territoire. Alors, elles créent leur propre marque. Voilà. Mais pour créer leur propre marque, elles ont besoin de puissance. Aller chercher James Bond pour lancer une nouvelle marque, ou alors Cindy Crawford, même si elle a un peu vieilli, quand même, ça coûte beaucoup d'argent. Même si le dollar est bas aussi en ce moment, ça coûte très cher. Pour une marque qui, au début, n'existe pas. Parce que Beauty Kiss, quand ça a été lancé, ça n'existait pas. Aujourd'hui, la premium marque de Spar, elle n'avait pas encore fait 0 € de chiffre d'affaires qu'ils avaient déjà investi avec Pierce Brosnan. Donc, le problème, c'est que qui paye ça? Eh bien, qui paye ça? C'est eux qui financent, c'est l'argent, la marge qu'ils génèrent avec les marques que nous leur vendons. où ils gagnent beaucoup d'argent. Et ensuite, avec cet argent, ils vont créer des marques et ils vont investir beaucoup d'argent pour que cette marque existe. Mais on va revenir pourquoi y a-t-il justement ces marques distributeurs qui sont un grand risque pour les marques qui arrivent. Alors ce boom des MDD, comme on les appelle, il est arrivé et on voit la progression. En 2003, on avait 21% en Allemagne et quand on regarde aujourd'hui, en 2009, il y a 41% de la proportion des marques qui sont des marques distributeurs aujourd'hui. Hein, le business est fait avec 41%. En France, 17%. Ça a été aussi un doublement. En Autriche, 11%. Ça a été triplé. Triplé. Plus que triplé. Donc, on a véritablement, en tant que fournisseur et donc créateur de marque, on est véritablement mis sous pression. Donc, et naturellement, les MDD, ces marques, coûtent moins cher. Et vous comprenez que les fournisseurs, les fabricants qui fabriquent ces produits, que nous sommes, entre autres, ne peuvent pas mettre le même niveau de qualité que dans les marques. Ce serait véritablement se déclarer un suicide. Et les MDD peuvent représenter dans certains segments de marché jusqu'à 2/3 du chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Alors, moi, je voudrais savoir les marques distributeurs dont je viens de parler, sauf Beauty Kiss, là, que je vous ai montré, que vous connaissez. Est-ce que certains peuvent me citer les marques distributeurs? S-Budget. Très bien. Clever. Sun. Zurück zum Ursprung. C'est marrant, mais vous les connaissez presque mieux que les marques de fabricants. Ça m'inquiète beaucoup. Alors, on les regarde, là il y en a quelques-unes. Donc vous voyez, Clever, vous l'avez dit, Ja Natürlich, Spar Premium maintenant, Natur Pur, Zurück zum Ursprung. Donc ça, ce sont les marques distributeurs en effet. Alors, pourquoi les marques MDD sont-elles devenues tellement puissantes? D'abord, parce que ce sont nos clients. Ils décident de les mettre. Donc, ils leur accordent dans les rayons autant de place qu'ils veulent. Hein, nous, quand on arrive avec notre marque, donc on arrive avec notre petite attaché-caisse, voilà, on présente notre produit, et puis on dit, voilà, est-ce que ça vous plaît? Alors, ils disent, non, ça ne nous plaît pas. Mais bon, si vous payez un peu, d'accord, on le mettra dans nos rayons. Alors déjà, on a une toute petite place comme ça, mais quand eux lancent une marque distributeur, ils accordent toute la place parce qu'il faut que ça se voit, il faut que ce soit un succès. Ensuite, se profiler par rapport aux concurrents par le prix. Clever, vous l'avez entendu l'année dernière, ça a été assez tambouriné, le meilleur prix du marché. Ensuite, le moyen de différenciation. Aujourd'hui, on voit avec Spar Premium se différencier par rapport à là, pas uniquement par le prix, mais la différenciation par le premium, par une différenciation aussi par la qualité. Ensuite, couvrir des offres non proposées par les fournisseurs. Alors ça, c'est pas mal, je trouve, parce que moi, je me souviens, il y a Dr. Drexel de Spar qui m'avait raconté l'histoire. Il m'a dit, je voulais absolument une sorte de glace que j'adorais et personne des fournisseurs voulait la lancer sous sa marque. L'Unilever, je leur en parlais, disait non, ça n'a aucun potentiel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mes acheteurs de glace qu'ils aillent chercher un fournisseur qui la produise et on l'a fait sous Spar Budget. Bon, ben, il a eu raison. Ensuite, Ja Natürlich, sur le bio. Le bio, c'est assez difficile à gérer pour les marques. Donc, une marque ici, en Autriche, de produits d'origine autrichienne, bio, qui respectent la nature, c'est très bien. Ça, c'est parce qu'ils peuvent aller sur toutes sortes de produits. Ils peuvent aller sur les produits laitiers, ils peuvent aller sur les biscuits, ils peuvent aller sur tout type de segments. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, ça, c'est beaucoup de charts, mais il faut dire que quand même, on a des intérêts communs avec nos clients. Les intérêts entre les fournisseurs et les clients, c'est une concurrence qui est de plus en plus sévère, une complexité du business qui est croissante, une exigence sur le développement durable, donc on doit essayer de penser des nouveaux modèles, et puis une efficacité, parce que, évidemment, tout le monde baisse les prix, donc on doit devenir de plus en plus efficace. Alors ça nous amène à créer des modèles, mais alors je vais vous montrer une charte, ça c'est Carrefour, c'est la stratégie de Carrefour. Alors, Carrefour, il voit la premium, le core market et le value range. Et puis, ils ont mis à droite, là, alors vous voyez les marques ici au milieu, et à droite, vous voyez la part de produits avec des marques distributeurs de Carrefour. 5 à 10% sur le premium, donc ils mettent très peu de MDD. 40 à 50% sur le core business, hein, et puis 60 à 70% sur le discount. Donc là, on s'aperçoit finalement que les fournisseurs sont véritablement des problèmes sur le bas de gamme et le moyen de gamme. C'est là où il y a les risques. Et puis, quand on va un peu plus loin, on s'aperçoit qu'ils segmentent aussi. Alors, on voit les segmentations, les premiers prix, donc toutes les marques distributeurs. Au début, c'était les premiers prix avec S-Budget, avec Clever, mais maintenant, ça devient sur la santé avec Vital, sur les spécialités italiennes avec Despar, sur le bio, sur le premium. Donc, ils segmentent et ils font véritablement du marketing, ce qu'ils ne faisaient pas au début. Voilà. Mais il y a aussi des flops. Je ne sais pas qui a acheté ses vêtements chez Hofer l'année dernière. Mais ils ont essayé de lancer avec Laong une gamme de vêtements. Ça n'a pas vraiment marché. On préfère aller chez H&M où on a une cabine, on a de la musique. Là, c'est sympa pour acheter ses vêtements. Mais chez Hofer, ce n'est pas très sexy. Hein. Voilà. Bon, ça, je vais passer parce que c'est très scientifique. Ensuite, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous montrer à l'exemple d'une marque, l'historique d'une marque qui s'est développée et qui est partie d'un produit unique et qui est devenue la première marque de fromage en Allemagne, dont j'ai participé à son développement et c'est pour ça que je connais bien, j'en suis assez fier. Donc, c'est l'exemple d'un produit qui est devenu une très grande marque et la marque Géramont. Donc, qui est devenue une marque ombrelle, une marque qui évoque les émotions. C'est l'envie des Allemands de savourer la vie à la française pour un moment. Alors la vie à la française, quand on regarde les photos, je ne sais pas quelles vous, les images, on retire ça, et moi j'aimerais bien savoir les images que vous avez de la France, ici. Quelles sont les images de la France que vous avez ? Quand on vous dit la France, vous pensez à quoi ? Pardon ? TGV. Technologie. Le vin ? L'amour. Je penserais que ça viendrait en premier, moi. Alors, c'est vrai que... ici, on est en Autriche. Donc, en Autriche, déjà, on a un peu moins besoin de la France qu'en Allemagne. Parce qu'en Autriche, il y a les montagnes, il y a les lacs, il y a la beauté du paysage. En Allemagne, c'est déjà un peu moins attirant, je trouve. J'ai vécu 18 ans en Allemagne, 17 ans en Allemagne. Bon, je sais ce que c'est. Bon. Alors, les images, évidemment, c'est beaucoup l'émotion, l'amour, le pain, la gastronomie et tout ça. Ça, c'est les images de la France. Alors, Géramont est devenu la marque numéro 1 de fromage en Allemagne. Ça a été le fromage français, c'est le fromage français le plus connu des Allemands. Hein, il est connu par, il y a 90% de notoriété. Et il est passé d'un produit qui est en haut, ici à gauche, en 1973. On voit l'évolution de tous les lancements. Donc, il est passé à la table de coupe, il est devenu allégé, un produit avec du goût. Ensuite, on a lancé du yaourt. Après, on a fait des tranches de pâte molle, donc tranchées. Ensuite, on l'a fait à tartiner, et puis après, on l'a fait en snacking. Donc, vous voyez le développement. Alors, ça semble très simple quand on voit ça, mais quand on est devant une feuille blanche, c'est autre chose. Alors, on va voir un petit peu et on voit le développement de la marque depuis 1971 ici. C'est, vous voyez, parti de zéro et puis arrivé à des chiffres assez impressionnants et chaque année toujours plus important avec les innovations qui ont été lancées sur cette marque. Alors, comment est-ce que Géramont a réussi cette innovation, cette évolution? L'important pour une marque, c'est de répondre avec précision aux attentes et aux aspirations des consommateurs. Et j'ai 6 réponses principales pour cette réussite. D'abord, 1. En 1973, la réponse a été un besoin essentiel des consommateurs, le besoin de sécurité du bon choix. Donc un produit, un fromage, avec une croûte blanche, puisqu'à l'époque, il y avait des croûtes un petit peu différentes, une bonne odeur de champignons frais. Là, vous avez l'odeur du Saint-Albret, c'est un peu différent. Un goût beurré et crémeux. Et puis une texture crémeuse sans cœur, parce qu'en France, vous avez les camemberts avec des cœurs. Donc vous coupez, c'est crayeux, c'est pas très crémeux. Et puis un produit stable avec une garantie de qualité. Et je vais vous montrer le premier spot publicitaire en 1973. C'est la technique, ça marchait trop bien jusqu'à présent.
C'est... Oh, dieser Camembert läuft und läuft und läuft.
Ich sehe jetzt Géramont aus Frankreich, mit dem Recht für frische Garantie. Probieren Sie selbst. Géramont läuft nicht. Und Géramont schmeckt fantastisch. Géramont mit der frischen Garantie.
1973, hein, 37 ans la publicité, donc ça a un peu changé la pub. Bon, la deuxième chose, c'est la différenciation. En se distinguant par la forme, donc en rupture avec le marché, donc une forme ovale. Parce que quand on regardait tous les fromages sur le marché à l'époque, ils étaient ronds ou en forme de pointe de brie. Et on a décidé de faire un Géramont, donc ovale. Et ça c'est quelque chose d'important. La troisième chose, c'est l'excellence de la qualité. La qualité pour nous, c'est la première chose. On développe des qualités, on essaie d'optimiser la recette tout le temps et d'avoir toujours un meilleur produit. On fait plus de 1500 dégustations en interne chez nous chaque année pour ces produits. Et ça, c'est véritablement important parce que si vous n'êtes pas content d'un produit, vous ne le rachèterez plus. Ensuite, on crée de l'émotion. Alors, en créant de l'émotion autour de la marque et en utilisant l'image de la France et de la séduction à la française. Et j'ai entendu le mot amour et vous allez le voir revenir parce que l'amour, la séduction, ça, c'est important. Un Allemand se fait séduire par une Française et avec une leçon de français, donc... vous allez voir comment ça se passe dans la publicité, une leçon de français.
Le nez dit passe. Fantastique. Les yeux dialoguent. La bouche permoite.
Qu'est-ce que
C'est bon.
Bon, c'est un peu différent de celle de 1973. C'est quand même 20 ans après. Mais c'est un film culte qui a véritablement installé la marque Géramont, donc avec des images très positives de la France. Une idée très simple, hein, la leçon de français dans le foin. Bon, tout le monde aimerait bien l'avoir. Et puis ensuite, une continuité du message publicitaire. On est resté sur le couple franco-allemand. Et à chaque fois qu'on lançait des innovations, voilà, on avait donc, on reprenait la même chose. Donc toujours allongé, hein, on mange Géramont allongé. Mais chaque innovation donc se nourrit de l'essence de la marque véritablement, le plaisir sensuel à la française en toute sécurité. Et à chaque fois, donc vous avez vu les produits, et c'est véritablement important de lancer, quand on lançait un nouveau produit, de reprendre l'idée publicitaire et de l'adapter. Donc encore un autre exemple, là où véritablement on passe à l'acte, hein. Pour l'instant on n'était pas passé à l'acte, donc le baiser. Alors, on est un groupe dans lequel le fondateur était au Grand Séminaire. Le Grand Séminaire, c'est l'école des prêtres catholiques en France. Donc ça, c'est toujours difficile à faire passer, hein. Donc, il faut beaucoup de travail, voilà, où on va lui expliquer qu'il n'y a rien de mauvais, mais bon. Alors, donc, on communique très fortement sur les innovations, et là, vous allez voir le dernier film sur un produit que nous avons lancé donc en 2008, et qui montre encore une innovation, toujours avec le couple franco-allemand. Donc, pour vous montrer l'importance de la continuité dans la publicité. Alors, on est passé de la leçon en français au baiser. Aussehen, j'ai pas encore la prochaine pub, hein. Alors tout ça pour vous dire que le rôle de la marque Géramont dans la grande distribution, ça a permis de dynamiser en fait la catégorie fromage, ça a apporté énormément d'innovation, ça a rassuré les consommateurs sur la qualité des produits, puisque globalement tout ce qu'il y avait sur les pâtes molles ont été dynamisés par Géramont. Ça a permis de découvrir des nouveaux goûts, des nouveaux usages sans risque. Et puis, ça a augmenté la rentabilité des rayons fromage. Donc, les distributeurs étaient très contents. Ils sont très contents de vendre du Géramont parce que c'est une marque avec laquelle ils gagnent beaucoup d'argent. Alors, quelles sont les perspectives? Eh bien, les perspectives, c'est les challenges qui arrivent maintenant. Ici, je ne l'ai pas inscrit, mais le premier que je vois, c'est les réseaux sociaux. Puisqu'aujourd'hui, avec nos marques, tout le monde peut s'exprimer très rapidement sur nos marques et dire quelque chose sur nos marques. Vous l'avez vu avec KitKat, je pense, et l'huile de palme, ce qui s'est passé. Vous connaissez ce qui s'est passé avec KitKat et l'huile de palme? Vous avez vu le spot publicitaire, non? Où il y a quelqu'un qui mange un KitKat et donc il y a l'huile de palme qui commence à goûter sur le clavier de l'ordinateur. C'est un spot qui a été fait contre l'huile de palme parce que Nestlé, donc, on voulait le challenger sur ses fournisseurs d'huile de palme. Donc, ça peut se passer sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a investi des années et des années, mais il peut toujours avoir un problème de qualité sur un produit. On peut toujours avoir quelque chose, même si on est sûr à 99,999%. La deuxième chose, c'est l'importance croissante du développement durable, parce que aujourd'hui, l'empreinte CO2, c'est quelque chose sur lequel on est challengé, hein. Et puis nous, on a des vaches qui font du lait, mais les vaches, elles se nourrissent, et les vaches, elles dégagent du CO2, hein. Et aujourd'hui, on est dans un bilan CO2 qui n'est pas évident. Alors on croit que le lait, le fromage, c'est un produit naturel. Mais on nous challenge là-dessus, donc nous on s'y intéresse et on essaie justement de devenir de plus en plus exemplaires et de réduire la trace CO2 au maximum. Les MDD s'imposent de plus en plus sur les segments premium, hein, on l'a vu sur le luxe et tout ça. Donc il y a de véritables challenges pour nos marques et donc il faut qu'on soit meilleur de plus en plus. Alors j'ai fini et donc je vous invite maintenant à consommer des marques. Hein, à vous passionner pour les marques, parce que soit si vous travaillez chez un distributeur ou travaillez dans une entreprise dans nos métiers, vous verrez, c'est des métiers passionnants, parce que vous vous identifiez complètement à vos produits, vous vivez avec vos consommateurs, et puis je vous invite, bien sûr, à consommer de plus en plus de fromages, et bien sûr des fromages bon grain. C'est bon pour la croissance. Et puis, je remercie, bien sûr, le professeur Stégou, et je vous remercie de votre attention. Et maintenant, bon appétit.